Et donc ce soir, on va continuer sur notre lancée sur l'identité. Et c'est quoi en fait notre identité en tant que personnes qui mettent leur foi en Dieu, en tant que enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu. C'est quoi notre identité? Qui on est? C'est ça en fait. Le thème, il est sur soi, sur qui on est. Et ce soir, en fait, j'ai envie de vous parler de notre identité qui est enracinée, qui est fondée dans l'amour de Christ. Et je vais vraiment prier parce que faut vraiment que Dieu y mette ce soir. Juste vous communiquer ce qu'il a mis dans mon cœur et des choses qui vraiment vont pouvoir vous encourager, vous apporter. Mon Père, merci parce que tu as permis qu'on parle de ton amour aujourd'hui. Seigneur, toi, tu sais à quel point c'est important d'aimer. Tu nous as toujours encouragés à aimer. Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi. On a besoin de toi, nous tous ici, d'entendre ta voix ce soir, nous parler. C'est pas juste Nathanaël qui va émettre des mots, mais c'est toi aussi qui va parler à nos cœurs. Et je prie, Saint-Esprit, que véritablement tu prennes la place qui te revienne, tu parles à nos cœurs et que tu te manifestes librement ce soir. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'à votre avis, c'est important de s'intéresser à l'amour? Est-ce qu'il y a, avant qu'on passe à la prochaine diapo, est-ce que vraiment des personnes ont, je sais pas, une idée? Vas-y, Nico. Ah, ça c'est très juste ce que tu dis. Hein. Que tout être humain a besoin d'amour, c'est ça en fait. Tout être humain. Tu vois, là tu me bénis, là je te passerai le micro, franchement. Mais non, mais c'est vrai, c'est très juste. C'est vrai, c'est vrai, tonnerre, c'est pas à moi de donner un jugement de valeur sur ce que Nicolas vient juste de dire. Mais ce qu'il dit, pour moi, ça me parle énormément parce que c'est vrai, en tant qu'être humain, on a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. C'est quelque chose, on ne peut pas vivre sans, en fait. On est des êtres sociables. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a besoin de quelqu'un à notre côté. Et d'ailleurs, vous voyez, quand des personnes sont mal, ils vont, et quand même ils vont tomber dans la maladie qu'on appelle la dépression, ils vont s'isoler, ils vont se couper des personnes qui peuvent, enfin des liens sociaux, ils vont se couper en fait de l'amour. Et c'est ça qui va encore plus les amener dans leur gouffre. Parce qu'ils vont se couper de l'amour en fait des gens qui tiennent vraiment à eux. Et nous, on a une personne qui tient à nous et cette personne, c'est Christ. Et Jésus, on va pouvoir du coup voir ce qu'il lui nous a dit et pourquoi l'amour est si important. D'une, parce qu'en fait, dans Matthieu 22, 37, 40, il a donné deux commandements. Il a dit, il n'y a que deux commandements qui comptent vraiment en fait. Et ces deux commandements, donc je lis, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En gros, ce qu'il entend dire, c'est que si vous n'avez pas lu l'Ancien Testament, je vous le résume. Et ce qu'il dit en le résumant, c'est aime ton Dieu et aime ton prochain. Il n'est pas en train de dire aime les gens dans l'église, aime les gens de ta famille, aime les gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as des affinités, avec qui tu as des mêmes passions. Il est en train de dire aime les gens, aime ton prochain, aime chaque personne qui est là autour de toi. Et vous savez pourquoi c'est très fort de dire ça? Enfin moi, je vais parler un peu de moi-même parce qu'on aime bien les petites histoires, on aime bien voir qu'il y a du vécu quoi dans ce que les gens disent. Et moi je sais que si j'avais pas l'amour de Dieu en fait en moi, je m'en foutrais complètement des gens qui m'entourent. Mais vraiment, c'est-à-dire que plein de fois je me suis rendu compte que j'avais ces pensées un peu de mépris, un peu ouais, enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment quelque chose avec lequel je luttais contre en fait, parce que j'aimais pas avoir ces pensées-là, un peu Ouais, mais lui, il est pas, enfin, je sais pas, il est pas assez réfléchi. Voilà, il manque totalement de culture. Ah là là, ouais, il est tombé malade. Bon, de toute manière, je peux rien faire pour lui. Alors, je continue ma vie. Ah là là, encore un mec qui vient mendier dans la rue. Mais c'est bon, quoi. Enfin, je peux pas porter la misère du monde. Et on a, enfin, excusez-moi, j'ai eu ces réactions-là. Ces réactions, je vous le dis vraiment avec, enfin, ouais. C'est pas que j'ai honte parce que je sais que Dieu, il me fait grâce et il me fait grandir là-dedans, dans ce domaine. Mais j'en suis pas fier. Et quand ces pensées me viennent, j'ai envie de dire non, Seigneur, c'est pas ce que toi t'aurais fait. Toi, tu accordes de l'importance à cette personne qui est là devant moi, qui est par terre et qui demande peut-être à manger. Toi, tu accordes de l'importance à cette personne. Toi, tu accordes de l'importance à la personne qui est à côté de moi, qui peut-être elle n'est pas cultivée comme moi j'aimerais, ou elle n'est pas assez réfléchie comme moi j'aimerais, mais elle a un don précieux, elle a une valeur inexprimable parce que toi, tu lui as donné de la valeur, parce que toi, tu lui as donné la vie, et rien que telle, rien que ta vie en lui ou en cette personne, eh ben, elle est belle et elle mérite que je l'honore cette personne en fait. Vous allez entendre cette voix qui va dire, mais honore la personne qui est là à côté de toi. Donne-lui de la valeur comme moi je t'ai donné de la valeur. Aime ton prochain comme toi-même. Et je me suis posé cette question, mais ça veut dire quoi en fait? Aimer les autres comme soi-même. J'étais en train de me dire, mais moi déjà, il faudrait que je m'aime, que je vive aussi, quoi. Enfin, je peux pas vivre pour les autres. Comment est-ce que je peux aimer les gens comme moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que aimer comme soi-même, c'est pas vivre pour les autres ou porter les souffrances des autres. C'est-à-dire, comme Dieu, lui, il t'a accordé de la valeur, accorde de la valeur aux autres. Comme toi, tu aimerais qu'on te fasse je sais pas, des cadeaux, vu que Noël arrive. Bah, faites des cadeaux aussi aux gens. En fait, vraiment comme ce que Dieu, il a dit, en fait. Ce que vous aimerez qu'on vous fasse, vous aussi, faites-le aux autres. C'est ça, aimer comme soi-même. Mais c'est quelque chose, et ça, je vous demande de le faire pour vous, en fait, de vraiment vous remettre devant Dieu et de lui demander, mais comment est-ce que je peux aimer comme tu aimes? Et de plus en plus, je réalise à quel point c'est important de demander ça devant Dieu, de voir les personnes dans notre vie qu'on n'aime peut-être pas forcément, et de prier, de se mettre à genoux devant Dieu et dire, Seigneur, moi je vais les aimer comme tu aimes. Ok, ils m'ont fait ça, ok, ils m'ont mal parlé, ok, voilà, je sais pas. Mais Seigneur, je vais t'aimer, je vais les aimer, je vais les aimer comme toi tu les aimes. Parce que tu as mis cet amour en moi et que je dois vraiment propager cet amour. Et cet amour, il passe aussi par la prière. Cet amour passe par la prière. Quand il y a des personnes que voilà, avec qui vous avez du mal ou avec qui ça va pas, et ben vous allez voir, je sais pas si vous avez déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé en tout cas. J'ai arrêté de penser ce que je pensais vis-à-vis de la personne et je me mettais dans la prière et je priais pour la personne. Et alors que je priais, que je remontais, enfin que je remontais, que j'arrêtais de prier en gros, je voyais la personne différemment. Il y avait quelque chose qui avait changé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit dans la parole de Dieu, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour vos ennemis, aimez-les. Et là, on voit vraiment toute la profondeur de cette parole. C'est pas juste prier parce que bon, il faut les aimer. Non, quand vous allez prier, il y a vraiment quelque chose qui va changer dans votre regard sur cette personne. Il y a quelque chose qui va changer dans votre cœur. Il y a vraiment quelque chose qui va changer pour elle. Dans la prière. C'est pour ça, hein, qu'on prie pour les uns et les autres. Qu'on prie quand les choses vont mal. Parce qu'on sait d'une que Dieu va faire et parce qu'on s'aime et que dans la prière, l'amour est encore plus manifeste. Et ça m'amène aussi à parler par rapport au jugement qu'on peut avoir contre les uns et les autres. Et on manque bien souvent d'empathie. Et moi, le premier, quand j'étais en Chine, en fait, j'étais dans une famille d'accueil. Et le père de cette famille d'accueil, il m'a pris, enfin, on était dans le salon assis, tranquille. Et puis, il m'a dit, Nathanaël, il faut que je te dise quelque chose parce que. Au niveau du christianisme, il y a une pensée qui est donnée, mais qui est fausse. C'est que Jésus devait mourir. Ça, c'est faux, ça. Il a pas eu, c'est pas vrai. Il n'avait pas besoin de mourir. c'est pas vrai quoi. Si ça a été fait, c'est parce que voilà, les pharisiens, ils étaient vraiment mauvais et qu'ils ont réussi à le faire mourir, mais il n'avait pas à mourir. Et quand il a dit ça, ça m'a vraiment blessé, mais ça m'a blessé énormément ce que j'étais en train de me dire. Mais s'il meurt pas, qui va payer pour tes fautes? Qui va payer pour les choses que tu as fait mal dans ta vie? Est-ce que toi, ton sang, il est juste? Est-ce que toi, ce que tu as vécu purement, tu as vécu parfaitement? C'est-à-dire que si Jésus, il n'avait pas à mourir, mais on serait tous foutus, quoi. On serait tous foutus. Pour vous donner une image très claire. C'est comme si je cassais, je sais pas, je cassais une voiture et j'avais pas les moyens de la payer. Et bah après je serais parti en prison ou je serais, voilà, j'aurais dû à payer une amende. Mais Jésus, lui, il a payé le prix que nous on pouvait pas payer. Il l'a payé de sa vie. Il a dit, toi, tu peux pas être sauvé de tes fautes, moi je vais te sauver. Et c'est pour ça que ce qu'il a dit, ça m'a blessé parce que c'était faux. Et j'étais du coup après en train de le juger. J'étais en train de lui dire, mais c'est pas un vrai chrétien, il dit des trucs. En plus, le pire, c'est que s'il a dit à moi, mais il est en train de le dire à d'autres personnes. Et ça va pas du tout. Et après, effectivement, cette personne, elle avait aussi vécu des blessures. Et elle avait même vécu des choses. Voilà, elle avait vécu aussi la dépression qui l'avait amenée dans le fait de justement de changer sa vision des choses par rapport à Dieu parce que elle voulait pas s'abandonner complètement. Et Dieu, il m'a dit, mais Nathanaël, arrête. Arrête de penser comme ça vis-à-vis de cette personne. Arrête de parler aussi comme ça de cette personne. Moi, ce que je veux, c'est que tu te mettes dans la prière et que tu pries pour cette personne. Si je t'ai montré ça, c'est pas pour que tu ailles juger la personne, c'est pas pour que tu ailles parler derrière elle, c'est pour que tu prennes du temps dans la prière et que tu l'élèves. Si tu peux lui parler, mais parle-lui, super, mais plus que tout, prends du temps aussi dans la prière. Parce que dans la prière, il y a vraiment des choses qui vont se passer. Dans la prière, tu vas me laisser, moi, me manifester à lui. Tu vas me laisser, moi, toucher son cœur. Et j'ai fait, Seigneur, ok, je vais faire ça. Je vais arrêter. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que moi, je l'ai jugé avec mes yeux qui sont juste humains. Pourtant, cette personne, elle est merveilleuse. Elle s'accroche vraiment à la parole de Dieu. Elle veut faire les choses bien, les choses propres. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Et alors que je me suis mis à prier pour cette personne, à dire, Seigneur, tu vois ça, cette situation, et je prie vraiment que tu changes cette personne. Et ben, je commençais vraiment aussi à pleurer pour cette personne. Parce que j'ai réalisé tout l'amour que Dieu avait pour cette personne. Et que Dieu, en fait, n'était pas en train de la condamner. Dieu, ce qu'il disait et ce qu'il voulait vraiment, c'est relever cette personne et dire à cette personne, mais je t'aime et je veux que tu connaisses ma vérité pleinement. Et ce qui est trop fort, c'est que alors même que moi, je peux juger cette personne, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent je me prends moi-même des claques en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui pense, mais non, mais attends, elle a fait ci et ça. Et en fait, Dieu, il vient me voir et fait, ah ouais, et toi, t'as pas fait ci et ça par hasard là cette semaine? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et du coup, dans ces moments-là où on se prend des bonnes petites claques, on fait, ok, Seigneur, je comprends, je te demande pardon. Et y a un verset dans Matthieu 5, 7. Merci, Matt. Alors, dans Matthieu 5, 7, il est dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. En gros, ce qui est dit, c'est, vous êtes heureux si vous faites grâce aux autres, parce que Dieu, lui, il vous fera grâce. Et il y a un autre verset qui dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, moi-même, je ne vous pardonnerai pas. Et on est en train de se dire, mais attends, mais Seigneur, est-ce que t'es miséricordieux ou pas? Est-ce que ta grâce, elle dépend du fait que moi, je vais faire grâce aux gens ou pas? Mais ce qu'il est dit au travers de la phrase, si vous pardonnez aux autres, moi aussi, je vous pardonnerai. Et si vous pardonnez pas aux autres, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. C'est que si t'as vraiment reçu le pardon de Dieu et la grâce de Dieu, tu peux pas t'empêcher toi-même de faire grâce aux autres. Faire grâce, ça veut pas dire que tu tiens pas compte de ce que la personne est en train de faire. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas la grâce. C'est pas ce que Dieu, il a fait. Au contraire, tu tiens bien compte de ce qu'elle a fait, cette personne. Mais tu vas continuer à l'aimer. Tu vas continuer à prier pour cette personne. Quoi qu'elle ait fait, ton regard va pas changer sur elle. Et c'est ce que Dieu, il fait avec nous. Quoi qu'on fasse, notre regard va pas changer. Son regard va pas changer sur nous. Mais simplement, si on continue d'agir et qu'on se morfonde dans nos propres choix qui nous condamnent, eh ben on va se condamner nous-mêmes. et Dieu va laisser agir ça. Mais lui, son regard d'amour sur nous ne va pas changer. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir cette identité, c'est d'avoir cette même qualité, où on ne va pas juger la personne, mais on va l'élever dans la prière. On va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on va aller vers elle. On va lui dire peut-être avec amour ce qu'on sent et ce qu'on pense, mais on ne va pas lui dire « Regarde, c'est comme ci, c'est comme ça, t'es foutu, etc. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Jésus, il n'est pas venu sur cette terre en disant à Dieu, mais donne-leur ce qu'ils méritent. Ils méritent la mort, donne-leur ce qu'ils méritent. Jésus, il est venu, il a donné sa propre vie pour que nous, on puisse vivre pleinement et librement. Et il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu au contraire pour nous sauver parce qu'il y avait une condamnation qui était là posée sur nous. Qu'on puisse avoir de l'empathie, qu'on puisse avoir du non-jugement. Il y a aussi un verset qui dit dans Romains 14, si tu vois ton frère ou ta sœur qui tombe, si tu vois ton frère ou ta sœur qui tombe, ne la juge pas, mais crois en ton Dieu, crois en ton Seigneur qui lui relèvera et la relèvera. Donc en gros, qui es-tu toi pour juger ? Dieu lui la relèvera, mais prie. Donc ayons de l'empathie et du non-jugement. Et je ne sais pas si vous connaissez ce verset, mais c'est vraiment une exception chrétienne, entre guillemets. C'est Dieu qui nous dit, c'est à l'amour que vous aurez pour les uns et les autres que ce monde saura que je suis Dieu. C'est à l'amour que vous aurez pour les uns et les autres que l'on verra que je suis Dieu. Et effectivement, si vraiment vous aimez chaque personne inconditionnellement, pas parce qu'elle est votre amie, pas parce qu'elle est votre famille, mais que vous vous exercez vraiment à aimer les gens, ça va les impacter, ça va vraiment les faire réfléchir. Ils vont se dire, mais quel intérêt cette personne a à m'aimer? Quel intérêt cette personne a à m'accorder de la valeur? Il y a vraiment quelque chose dans sa vie qui fait que elle peut aimer. Il y a vraiment quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle peut voir les choses et voir les gens différemment et leur accorder de la valeur parce que je la connais même pas qu'elle m'aime déjà. Et c'est vraiment pour ça, en fait, que Jésus aussi a dit ça. C'est à l'amour que vous aurez pour les uns et les autres que l'on verra que je suis Dieu au milieu de vous. Parce que cet amour-là, il le trouve nulle part. Dans Matthieu 24, il est dit qu'à la fin des temps, l'amour se perdra. L'amour du plus grand nombre se perdra. Les gens aiment de moins en moins. Les gens aiment de moins en moins parce qu'ils ne voient juste pas d'intérêt, en fait. Ils ne voient pas l'intérêt à aimer l'autre. L'autre, en plus, c'est le mal. Moi, je vais bien, c'est l'autre le problème. C'est jamais moi le problème, c'est l'autre. Donc, les gens n'aiment pas. Mais le fait que nous aimons, c'est non plus parce qu'on est mieux que les autres, c'est parce qu'on a juste la vie de Christ en nous. Et justement, Éphésiens 3, 17, 21. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Si Christ habite dans vos cœurs, vous allez aimer. C'est pas vous allez aimer malgré vous, parce que ça reste votre choix. Mais si Christ habite dans vos cœurs, si vous lui avez dit « Viens maintenant dans ma vie et prends possession de ma vie », vous allez aimer les gens. C'est juste pas possible. C'est pas possible d'avoir la vie de Christ en vous et de pas aimer les gens. C'est pas possible d'avoir la vie de Christ en vous et de pas pouvoir partager le message de Dieu. Et si ce soir, vous sentez que vous avez peut-être pas cet amour, justement, Dieu, il est en train de vous dire, mais je vais te remplir. Je vais te remplir de cet amour. Parce que moi, mon désir, c'est que tu aimes comme j'aime. Mon désir, c'est que tu ouvres les yeux sur le monde qui t'entoure. Et le deuxième verset, donc après les deux commandements que Jésus nous a donnés, c'est dans aussi 1 Jean 4, 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et c'est là que la dernière phrase peut nous faire réagir, on va dire. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Je la trouve vraiment, enfin, je trouve ces versets forts. car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu. Comment on reconnaît qu'on est né de Dieu? Parce qu'on a Christ en nous et qu'on aime. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est pas possible que vous ayez une révélation de Dieu, que vous connaissiez Dieu et que vous aimiez pas. Encore une fois. J'espère que vraiment personne culpabilise ce soir. C'est pas ça le but. Au contraire, moi quand je lis ces versets, ça m'encourage à plus chercher la face de Dieu, à dire Seigneur, je veux aimer comme tu aimes. Je veux aimer comme tu aimes, je veux faire grâce comme tu fais grâce. Mais je veux aussi élever ceux qui, dans la prière, se perdent, ceux qui font des choix qui les condamnent eux-mêmes, ceux qui font des choix qui font qu'ils se tiennent loin de toi. Je veux élever ces personnes, je veux les aimer. Je veux pas les juger, mais je veux prendre là ces défauts que toi tu m'as montré dans la vie de ces personnes et je vais les élever à toi comme moi j'aimerais qu'on me fasse. J'aimerais pas qu'on vienne vers moi et qu'on me condamne d'une certaine manière ou qu'on me donne du mépris, que je ressente du mépris dans la voix des gens. Mais j'aimerais voir dans les yeux de cette personne qu'en fait elle s'intéresse vraiment à moi, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, bah c'est vraiment pour mon bien, qu'elle le dit pas pour me condamner, mais elle le dit parce que elle sait que ça va m'amener plus loin avec Dieu. Ou que ça va me faire améliorer si cette personne-là ne connaît pas Dieu. Mais pour ça, pour pouvoir aimer son prochain comme soi-même, c'est important de prendre conscience de l'amour de Dieu. Il est impossible d'aimer si on ne prend pas conscience de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Parce que cette personne a pris conscience de qui est Dieu, elle a pris conscience de son amour par Jésus-Christ en cette personne, et elle peut donc aimer. Je voudrais vous lire en fait une petite histoire que vous avez certainement entendue. C'est un poème. Ça commence ainsi. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage, en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher, jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grandes angoisses, de plus grandes peurs et aussi de plus grandes douleurs. Je l'ai donc interrogé. Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, « Mon fils, tu es tellement précieux, ou ma fille, tu es tellement précieuse, je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuves et de souffrances, eh bien, c'était moi qui te portais. » Et vous allez me faire, « Ouais, ok, Nathanaël, mais c'est un poème, quoi. » Et effectivement, moi, j'ai lu ça, je fais, « Ouais, mais bon, c'est un poème. » Est-ce que vraiment, quand on sera dans le ciel, il y aura ça, il y aura des images défilées de notre vie, puis des pas, tout ça? Et justement, c'est pour ça que je vais inviter ma chère mère à parler, elle, de son témoignage. Parce qu'elle n'a peut-être pas vécu comme ça, mais ce qu'on vient juste de lire, elle l'a vécu. Et j'aimerais vraiment qu'elle puisse l'apporter.
Et si ça coule, c'est que c'est bon. J'aime pas les micros. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup aimé les chants, et notamment le chant donné aux Anna, au Seigneur, parce que c'est vrai. Et je tiens à lui dire qu'il y a des moments où on est vraiment mal, tellement mal, qu'on pense même à la mort. Et Et j'avoue qu'à un moment donné, ça m'était arrivé dans les moments les plus difficiles de ma vie, je pense. Je ne voyais plus personne. J'étais isolée dans... On habitait le Segrien à cette époque-là. Mon mari était toujours en vadrouille, enfin, déplacement au boulot ou autre, ou sport. Et je me retrouvais avec mes deux petits à la maison. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Je ne connaissais personne. Et à un moment donné, j'avoue que j'avais l'impression d'être un meuble. Alors, et puis quand on est un meuble, on ne sert pas à grand-chose, faut dire ce qui est. Enfin, du moins, on sert quand vraiment on est fait pour être meuble, mais quand on n'est pas fait pour être meuble, on ne sert à rien. Et j'avoue qu'à un moment donné, le soir, pendant 2-3 jours, c'était sans arrêt ma tête qui tournait. Mais qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Qu'est-ce que tu apportes? Enfin, à quoi tu sers? Enfin, bon, c'était vraiment les questions les plus horribles qui pouvaient se poser dans ma tête. Au point où, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, c'est vrai, qu'est-ce que je fais sur la terre? Je suis en train de mourir et puis c'est tout. J'avais deux enfants, mais mes deux enfants ne me servaient pas, m'aidaient pas à vivre. Au contraire, je me disais, mais qu'est-ce que je peux leur apporter en plus? Et à un moment donné, ce qui était marrant, c'est que bon, je sais que ma mère priait pour moi, heureusement, mais elle ne connaissait absolument pas ce qui se passait. J'étais isolée dans le Segrien. J'avais pas de gens avec qui je pouvais vraiment parler de ce qui m'arrivait. Et en plus de cela, je gardais tout ce problème pour moi. C'était horrible. Donc tous les soirs, une fois que j'avais couché les enfants, je m'étais occupée des enfants, la même scène se reproduisait, le même cauchemar. Enfin, je ne dormais pas, mais c'est le même scénario dans ma tête qui se reproduisait. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? À quoi tu sers? Faut mieux te tuer. Tu sers à rien. Tue-toi. Et puis au bout d'un certain temps, je disais, mais Seigneur, où tu es? Enfin, je vois pas où tu es. Je ne te comprends pas. Je dis, écoute, Seigneur, je suis en bas du mur. Je suis plus bas que terre. C'est pas difficile. C'est où tu me fais disparaître ou tu me remontes. Il n'y a pas d'autre solution. Je touche déjà les bas-fonds, je ne peux pas toucher plus bas. Et je vous assure que le chant qu'on chante souvent, on disait, et il m'a sauvé des grandes eaux. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Je ne sais plus comment c'était ce chant. Il m'a retiré des grandes eaux. J'ai vraiment vécu cela. D'un coup, au moment où j'ai dit ça, j'ai senti comme si quelqu'un me tenait par le cou et me faisait remonter du fin fond de je ne sais où, d'un gouffre. Et bon, j'ai repris ma petite vie normalement, enfin voilà, j'ai repris aussi ma vie avec le Seigneur, etc. Parce que dans ces moments-là, il faut dire ce qui est, on laisse un peu tomber Dieu. Mais enfin, en tous les cas, je peux vous le dire, on est content au début, puis après, une fois qu'on le cherche partout, qu'on ne le trouve pas, on se dit où est-ce qu'il est. Nous, on croit qu'il a bougé, en fin de compte, c'est nous qui avons bougé, il faut le savoir. Et ça, j'avais une fois une vision où j'ai dit, mais Seigneur, ça correspondait aussi à ces moments-là, j'ai dit, mais Seigneur, tu es caché où? T'es où? Et je regardais par ici, et je regardais par ici, et je regardais par là, et je ne voyais pas. Puis à un moment donné, dans ma vision, Dieu m'a fait montrer que j'avais fait 360 degrés, et que si j'avais fait juste le tour comme ça, je l'aurais vu, n'avait pas bougé, c'est moi qui avais bougé. Alors vous me direz, ça ne vous sert pas à grand-chose ce que je vous raconte. Eh bien si, c'est pour dire que notre regard à nous peut changer. Parce que notre regard change, parce que les circonstances de notre vie changent, on croit que Dieu a bougé. On croit que Dieu finalement n'est plus là. Mais quelques années plus tard, pardon, quelques années plus tard, je fréquentais toujours l'église d'ici, ça allait bien mieux, hein, ne vous inquiétez pas, hein, j'avais repris le poil de la bête. Et puis, de la bête du Seigneur, pardon. Peut-être pas que je me trompe demain. Donc j'avais repris les forces du Seigneur. Et puis je rencontre une dame que je connaissais bien, une sœur, que je connaissais bien, que je n'avais pas vue depuis X années. Parce qu'entre-temps, je crois qu'on était, je ne sais pas si on était partis en Chine ou pas, je ne me rappelle plus. Enfin bon. Puis elle me dit, vous allez bien, sœur, vous allez bien? J'ai dit, ah oui, je vais bien, ça va. Elle fait, ah oui. Parce qu'il fut un temps, je pensais tout le temps à vous et je priais tout le temps pour vous. Cette sœur ne savait absolument rien. On se contentait de se dire bonjour à l'église, point final. Je racontais jamais ma vie à personne. Donc elle ne savait rien. Mais elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit pourtant, elle fait, à mon avis, j'ai dû prier pour vous. Je ne sais pas si c'est pour votre couple ou votre foyer ou votre famille. Mais en tout cas, j'ai prié pour vous. Et le Seigneur me réveillait chaque nuit pour cela. Elle avait à peine fini sa phrase que mes larmes ont collé. Et je lui dis, ah bon, vous avez prié pour moi? Et elle me dit oui. Et j'ai dit, elle me dit, peut-être, ça fait peut-être 3 ans. C'est elle qui l'a dit, ce n'est pas moi. Et quand elle m'a dit, ça fait 3 ans, je savais en quel état, en quelle année on était à ce moment-là. Donc j'ai calculé 3 ans après. Et ça correspondait au moment où, mes pensées étaient sans arrêt dans la mort et dans la destruction. Et au moment où j'avais dit au Seigneur, si tu ne me fais pas sortir de là, alors tue-moi complètement et reprends-moi complètement. Et quand j'ai vu ça, les larmes ont coulé, j'ai dit, assurément, c'est vrai que même dans les moments les plus difficiles, on ne se rend pas compte que Dieu est réellement avec nous. Et que si nous, on ne peut plus prier, si on peut plus, on n'a plus de force, on ne peut plus rien faire. Alors c'est Dieu lui-même qui s'occupe de trouver quelqu'un d'autre pour faire le travail à notre place. Et ça, ça démontre vraiment l'amour qu'il a pour nous. Mais ce que j'avais oublié de vous dire avant toute chose, c'est qu'un jour, j'avais dit au Seigneur, bien avant cette expérience-là, j'avais dit, ouais, c'est vrai, Seigneur, tu nous aimes, tu nous aimes. Moi, je suis d'accord avec toi, tu nous aimes, il n'y a pas de problème. C'est écrit dans la Bible, je le crois. Je sais d'avance que tu aimes tout le monde, mais moi, Muguette, tu m'aimes comment? C'est la question que j'avais donc posée. Et après, quelques années plus tard, m'est arrivée cette fameuse épreuve. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand je suis sortie de cette épreuve, et quand cette sœur est venue me raconter ça, j'ai vraiment réalisé tout l'amour que Dieu avait pour moi. Et je pense sincèrement qu'on ne se rend jamais compte de l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous que lorsqu'on est dans l'épreuve et qu'on s'en sort en vérité. Parce qu'à ce moment-là, on peut se dire que ce n'est pas nous, ce n'est pas par nos propres forces qu'on en est sorti. C'est vraiment parce que Dieu a déplacé quelqu'un, a fait prier quelqu'un. Je ne dis pas à déranger parce que il y a toujours des frères et sœurs qui... Je le savais, c'est pour ça que j'avais préparé les Kleenex, ne vous inquiétez pas. C'est tellement horrible ces trucs-là. Ne vous inquiétez pas, c'est passé, mais bon, c'est toujours triste de revenir sur des vieilles choses. Quoi. Excusez-moi. Bon, tout ça pour vous dire que finalement, c'est important de vraiment comprendre cela. Et moi, je l'ai vraiment compris qu'on ne peut aimer Dieu qu'à travers sa parole. Plus on se penche dans sa parole.
Super, tu me fais ma transition.
Ah bon, pardon.
Je savais pas.
Elle est super. Merci même. Ouais. Si. C'est bien, on a le même esprit. Non mais vraiment, cette femme que vous voyez là assise, non mais si vraiment, c'est parce qu'elle s'est tenue dans la prière. Elle s'est tenue dans la prière. Le matin, je la voyais, elle était là. Enfin, le soir, moi j'allais me coucher, elle priait. Le matin, je la voyais, elle priait. Je me disais, mais elle dort quand? Mais vraiment, si moi j'ai pu avoir cette relation avec Dieu, c'est parce qu'elle c'est grâce à une femme comme ça, c'est grâce à ma mère qui a vraiment pu prier. Et bien sûr, grâce à Dieu. Par-dessus tout, c'est sûr. Merci vraiment, maman, pour ce témoignage qui nous rappelle que l'amour de Dieu est véritable, c'est vrai. Dieu vous aime. C'est pas juste un poème, c'est pas juste des mots, c'est pas juste voilà des choses qu'on peut imaginer ou fabuler, comprendre intellectuellement, mais c'est réel. Dieu nous aime. Et je sais pas ce que vous vivez là dans votre vie en ce moment, mais Dieu, il est là. Et si vraiment vous voulez aller vers lui, sa main, lui, elle est toujours tendue. Qu'importe la situation dans laquelle vous êtes mis, Dieu peut vous sortir de là, comme le chant que ma mère, elle a eu. Il me saisit, il me délivre, il me sort des grandes eaux. Qu'importe la situation où vous êtes, qu'importe là où vos choix vous ont amené, peut-être même dans les situations où vous vivez avec le compromis, Dieu, dans son amour, il veut vous sortir de là. Et c'est pour ça, et du coup ma mère a fait cette parfaite transition, Jésus, il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si vous m'aimez, c'est ça en fait que Jésus entend dire, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Et moi en fait, cette phrase, elle m'a révolté au départ. J'ai lu ça dans la Bible, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Vous garderez mes commandements? Ça fait un peu, oh là là, c'est... Ouais, un peu une dictature, on n'a pas le choix, il faut garder ses commandements, et si on garde pas ses commandements, bah ça veut dire qu'on l'aime pas, tout ça. Et au départ, ça me révoltait, je me disais, mais non, mais c'est quoi ça? Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, vraiment, mais aide-moi à comprendre cette phrase, parce que là, je la lis comme ça, je la comprends pas, et elle me fait pas du bien, quoi. J'ai l'impression que c'est du chantage affectif que t'es en train de me faire. Et en fait, non, ce que Dieu est en train de dire, c'est « Je suis la parole. Je suis cette parole que tu tiens dans ta main, que tu lis peut-être ou que tu ne lis peut-être pas. Mais je suis cette parole. Si véritablement tu dis que tu m'aimes, ça veut dire que tu me connais. Si tu me connais, ça veut dire que tu connais ma parole. Si tu connais pas ma parole, que tu la gardes pas dans ton cœur, moi j'ai pas de place dans ton cœur. Parce que ma parole, elle va te garder. Elle va te garder dans mon amour. Elle va te garder dans ma présence. Elle va te garder dans les choses bonnes, agréables et parfaites. Ça veut dire les choses qui sont conformes à ma volonté. Si tu dévies de ma parole, si tu dévies des commandements que j'ai mis devant toi, tu vas juste choisir la mort. Et la mort, c'est pas forcément vous allez avoir un arrêt cardiaque. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est, mais c'est dans le sens que vous allez choisir. Vous allez faire des choix qui vont vous amener vers des divisions peut-être, que ça soit dans au milieu de vos amis, au milieu de votre famille. Vous allez faire des choix qui vont vous amener dans des compromis. Vous allez faire des choix qui vont vous-même vous condamner. Et Dieu, il est en train de dire, mais si tu gardes ma parole, si tu écoutes ce que je te dis, tu resteras en moi et moi je demeurerai en toi et je t'assure que je te guiderai. Parce que Dieu, il nous force pas en fait. Il nous aime tellement qu'il nous laisse le choix. Si tu veux me connaître, je suis là. Si tu veux pas me connaître, il n'y a pas de problème. Moi, je continuerai à t'aimer. Et c'est ça qui est encore plus fou. C'est comme imaginer un couple où l'homme est tout le temps en train de tromper sa femme. Il est tout le temps de partir à droite et à gauche et cette femme demeure fidèle. Ou l'inverse. La femme qui part à gauche et à droite et cet homme qui demeure fidèle, peu importe. Mais c'est pour vous donner cette dimension d'amour que Dieu a pour nous. Où même nous, on demeure infidèle, on part à gauche et à droite, on va faire des choses qu'on sait que ça va lui déplaire. Et ça va être nos idoles, parce que si on place des choses au-dessus de Dieu, ça devient nos idoles, ça devient quelque chose qui va prendre la place de Dieu. Alors que lui, on dit, il est notre roi, et on l'a chanté ce soir. Si vraiment je suis ton roi, laisse-moi tes choix. Si vraiment je suis ton roi, laisse-moi tes choix. Renonce à toi-même, renonce aux désirs que tu peux avoir qui ne sont pas mes désirs, qui ne sont pas ma volonté. Et moi, je viendrai faire ma demeure en toi parfaitement. Et les choses que tu verras autour de toi, ça va être bonne, agréable et parfaite. Qu'importe encore là où vous êtes ce soir, Dieu, il a toujours sa main tendue. Qu'importe les choix que vous avez faits qui vous ont peut-être amené vers des choses où vous regrettez, il veut vous sortir de là, il veut vous sauver de là. Et ça, c'est possible que par l'obéissance à sa parole. Et il y a aussi un passage que j'aimerais vous lire par rapport à ça. C'est une phrase qui moi, du coup, me booste vraiment dans ma foi. Bon, elle ne paye pas de mine non plus. Mais je ne sais pas si vous connaissez en fait l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal au Carmel, au Mont Carmel. Où en fait, c'était dans une période où Israël était très idolâtre. Et bon, en même temps, il y avait tout un contexte aussi. Mais bon, bref. On n'a pas le temps de passer sur les contextes, etc. Donc, c'est une période où Israël était très idolâtre. Et donc, il y avait. Ils se sont retrouvés un moment dans la montagne du Mont Carmel. Et Élie a un peu défié les prophètes de Baal. Et en fait, il voulait vraiment montrer que Dieu, il est Dieu. Et que les prophètes de Baal, ce qu'ils annoncent, c'est faux. C'est du fake, en fait. Un peu comme ce que ce monde peut nous proposer. En lui disant, voilà, c'est ça la vérité. Mais bon, chacun peut y réfléchir dessus, mais nous, on croit vraiment que c'est la vérité de Dieu, la vraie. Et Élie, il va dire un moment au peuple d'Israël, il dit, « Si c'est le Seigneur Yahvé qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. » Ce qu'il entend dire, c'est, « Si vraiment Dieu, il est Dieu, mais suivez-le. S'il n'est pas Dieu, si c'est autre chose, suivez ces choses-là. Mais faites un choix. » En fait, c'est ça qu'Élie est en train de dire. Faites un choix. Parce que je pense qu'il n'y a que ça qui peut nous garder de vraiment accomplir, enfin de garder la parole de Dieu et de l'aimer, de lire cette parole. C'est parce que dans notre vie, on n'a pas fait un réel choix, en fait. On n'a pas fait un réel choix de le suivre, lui, et de croire qu'il est Dieu. Parce que si vraiment on a fait un réel choix, alors on n'aura pas de compromis dans notre vie. Après, voilà, c'est ce que vraiment je ressens. Et c'est ce que je vous dis, peut-être que j'ai pas assez nuancé ma parole, peut-être que mes propos sont pas assez nuancés, je veux bien l'accorder. Mais je pense vraiment que si on fait des choix, on le sait avant de le faire. On sait que ça va déplaire à Dieu, on sait que ça va blesser son cœur. mais qu'on le fait quand même, c'est que dans notre vie, on n'a pas fait un réel choix de suivre Dieu. Et c'est pour ça que je la trouve forte, cette phrase. Si c'est le Seigneur Yahvé qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal ou si c'est autre chose, je ne sais pas, vous pouvez mettre les trucs qui peut-être vous... Enfin, est un obstacle pour vous d'aller vraiment devant Dieu, est un obstacle pour vous dans votre relation avec Dieu. Vous pouvez mettre ça à la place. Suivez-le. Mais faites un choix. Et par rapport à ça, il y a une prière de Saint François d'Assise, en fait. Je fais un peu style catholique, tout ça. Mais c'est une prière, en fait, qui me touche énormément. Et on sent que Saint François d'Assise, il a vraiment fait un choix, lui. Un choix de se consacrer totalement à Dieu. Et je vais vous lire, en fait, cette prière. Et après, on va passer une vidéo par rapport, justement, à cette prière qu'il a faite. Cette prière de Saint François d'Assise, donc 12e siècle, 12e, 13e, elle s'appelle « Un instrument de paix ». « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, le pardon. Là où est la discorde, l'union. Là où est l'erreur, la vérité. Là où est le doute, la foi. Là où est le désespoir, l'espérance. Là où sont les ténèbres, la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Et comment est-ce que Saint François d'Assise, il a pu dire ces choses? Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Comment il peut dire ces choses? On a tous besoin d'être consolés, on a tous besoin d'être compris, on a tous besoin d'être aimés. Mais c'est parce que Jésus, lui, l'a consolé. Parce que Jésus, lui, l'a compris. Parce que Jésus, lui, l'a aimé. C'est pour ça qu'il peut aimer. C'est pour ça qu'il peut comprendre plus qu'à être compris. Parce que Jésus, lui, l'a compris et il sait qui il est. C'est pour ça qu'il ne cherche pas à être consolé. Parce que Jésus, lui, l'a pleinement consolé. Il veut du coup consoler les autres. Certainement, on aura tous besoin d'être consolés dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais chrétiens. Mais Saint François d'Assise, il a cherché à plus consoler qu'à être consolé. Il a cherché à plus comprendre qu'à être compris. Et on est tourné vraiment vers nous-mêmes. Parce que justement, je pense qu'on est aussi un peu blessé. Qu'on a besoin en fait dans notre vie d'une réelle restauration. Et tant qu'en fait dans notre vie on a des soucis, quand on a des soucis autour de nous, bah juste on n'a pas le temps de penser aux autres quoi. On n'a pas le temps de penser aux problèmes des autres parce que nous-mêmes on a des soucis, voilà quoi, c'est bon quoi. Moi je le ressens vraiment comme ça par moment. Et Dieu me dit, mais moi je suis ton Dieu, je suis en train de prendre soin de ça, je suis en train de prendre soin de cette situation. Crois seulement. Maintenant parle à la personne qui est à côté de toi, aime la personne qui est à côté de toi, viens voir cette personne parce que moi je m'occupe de toi. Mince, Aurélien n'est pas là du coup. Ah, super. Je ne le voyais plus. On va passer la vidéo.
And the problem is this, we were bought with a kiss, but the cheek still turned, even when it wasn't it, and I don't know what to do with a love like that. I don't know how to be alone like that when all the love in the world is right here among us and hatred too. So we must choose what I space. Let there be grace where there is suffering. Bring serenity for those afraid. Help them be brave where there is misery. Bring expectancy and surely we can change. Surely we can change.
Le verset qui a été donné, qui est en anglais, c'est dans Habacuc 1.5. Il est dit, c'est Dieu qui parle. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Ça, je pense, c'est ce qu'on peut vraiment proclamer par rapport à la situation dans laquelle on peut être. Moi, je vais prendre l'exemple de ma famille. Je veux que dans ma famille, Dieu y fasse une œuvre que je ne croirais pas si on la racontait. Mais ça peut être par rapport à la maladie, ça peut apparaître par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes addict, ça peut être quelque chose dans lequel vous galérez, ça peut être par rapport à vos études, je sais pas. Mais Dieu, lui, va faire une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Ça peut être par rapport aux personnes qui vous entourent, ou vous voulez vraiment qu'elles connaissent Dieu. Dieu va faire une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Ça peut être par rapport à cette église, où vous voulez qu'elle aille encore davantage plus proche de Dieu. Dieu va faire une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Vous pouvez mettre n'importe quelle situation, Dieu va faire une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Parce que quand on espère en Dieu, rien n'est impossible. Et cette vidéo qui a été montrée, c'est pas juste pour se donner des belles idées, des belles motivations et juste en rester là. C'est parce que Dieu, il tient vraiment ce monde entre ses mains. C'est la terre de notre Dieu, c'est le monde de notre Dieu. Dieu va faire une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Et ce soir, je prie vraiment que votre foi, elle soit grande. Si vous voulez sortir de là où vous êtes, vous voulez vraiment saisir la main de Dieu, rendre compte de son amour pour vous et bien plus son amour pour les autres, parce que vous allez voir que la vie chrétienne, c'est une vie dévouée. C'est une vie où vous allez arrêter de même, peut-être, ou moins, de prier pour vous-même, ou si vous avez prié pour vous-même, vous allez prier pour être juste plus proche du cœur de Dieu. Mais vous allez passer votre temps à prier pour les autres, vous allez passer votre temps à pleurer pour les autres, vous allez passer votre temps peut-être même à avoir moins de joie, entre guillemets, parce que vous allez réaliser juste à quel point les gens autour de vous souffrent et à quel point ils ont besoin de connaître Christ. Dieu va faire une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Et je pense que ça serait bon compris pour ça, que l'amour de Christ croît dans notre cœur, dans nos vies, que l'amour de Dieu tombe sur nous ce soir, qu'il y ait des restaurations, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait même peut-être des baptêmes dans le Saint-Esprit si vous le désirez. Mais je prie vraiment qu'on puisse se lever ce soir, si vous le voulez après, sinon on arrête là tout de suite, il n'y a pas de problème. Et dans la situation dans laquelle on est, Dieu va apporter une œuvre de vie. Faites un choix. Faites un choix de suivre Dieu ou de laisser ça de côté. Mais je crois vraiment que Dieu, ce qu'il désire, c'est pas que vous le rejetez, c'est que vous mettiez votre confiance en lui, que vous mettiez votre foi en lui, parce qu'il va faire des choses grandes. Il va faire vraiment une belle œuvre. Et c'est vraiment devant l'amour de Dieu, c'est devant en fait, mais sa beauté, c'est devant ça en fait. Quand on est face à cette chose-là, on peut juste pas s'empêcher de s'abandonner nous-mêmes. On peut juste pas s'empêcher de réaliser son amour pour nous, de réaliser sa grâce, de voir aussi toutes nos fautes, toutes les choses qu'on a pu faire qui ont blessé son cœur. Mais de voir aussi ses yeux de grâce et dire, mais t'as fait toutes ces choses-là, mais je te pardonne. Je te sors de là. Je t'enlève ce poids que tu avais. Je t'enlève ce poids. Mon Père, je prie vraiment que ce soir, tu nous fasses grandir cette foi en toi. Qu'on ait vraiment une foi immense qui monte dans notre cœur, même peut-être une colère, une sainte colère vis-à-vis des choses dans nos vies ou dans la vie des personnes qui nous entourent où c'est injuste ce qui se passe. C'est juste la souffrance et la peine, c'est ce que le diable y fait ou c'est ce que la chair elle fait. Mais nous, on appelle vraiment à ce que ta vie elle se proclame. On appelle vraiment à ce que ta vie, elle se manifeste pleinement dans ces situations. Là où il y a la peine, la souffrance dans nos familles, apporte, Seigneur, toi, ta grâce. Et apporte au travers de nous vraiment ton amour, ta présence. Là où il y a la maladie peut-être dans mon corps, Seigneur, apporte ta guérison. Je crois en toi, je sais que toi, tu es un Dieu. Je sais que tu es Dieu, que tu tiens le monde entre tes mains. Là où il y a l'addiction, Seigneur, mon Père, tu me sors de cette addiction. Seigneur, je veux sortir de cette addiction. Je veux plus vivre comme ça, Seigneur. Tu me sors de là. Là où j'ai fait des choix qui m'ont emmené à être si loin de ton cœur, Seigneur, mon Père. Donne-moi de faire le choix de revenir à toi. Parce que si toi, tu es Dieu, il faut que je te connaisse. Il faut que je fasse le choix de te connaître. Seigneur, là où il y a les ténèbres dans ma vie, viens apporter ta lumière. Là où il y a les ténèbres dans la vie des personnes qui m'entourent, apporte ta lumière, Seigneur. Là où il y a la division, Seigneur, mon Père, je vois la division. Apporte, Seigneur, toi, l'unité. Alléluia. Élevez vos voix, vraiment, n'ayez pas honte. Et si c'est quelque chose de très personnel, alors je vous encourage effectivement à prier à voix basse, mais en tout cas, à croire que Dieu il va faire dans cette situation. À croire que Dieu il va faire, parce que Dieu il vous aime tellement qu'il va faire quelque chose. Il voit votre cœur. Oh là là, je peux pas l'expliquer. Il faut que je vais prendre un passage. Je vais prendre un passage parce que là, si je raconte ça comme ça, ça va pas le faire. Psaume 91. C'est Dieu qui parle au travers de la bouche de David qui parle en prophète. Puisqu'il s'est épris de moi, je lui donnerai d'échapper, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dieu va vous répondre ce soir. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. C'est aussi une parole qui est à Jésus. Je le rassasirai de la longueur des jours et lui ferai voir mon salut. Dieu, il va vous faire voir son salut dans la situation à laquelle vous pensez, dans la situation dans laquelle vous êtes. Il va vous faire voir son salut. Parce qu'il est épris de vous, il va vous donner d'échapper, il va vous protéger. Puisque vous connaissez son nom et que vous croyez en lui. Hallelujah.